Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Et Estelle et Théo me disent que c'est calme ce soir au standard. Profitez-en, 3921, appelez-les, ils attendent vos appels, ils vous guideront ensuite jusqu'à moi. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Oui, ah, ça fait déjà deux fois qu'on se parle.
Oui, j'ai reconnu votre voix.
Et depuis les deux fois qu'on se parle, il y a des choses merveilleuses qui se passent dans ma vie. Voilà.
Ah, racontez-moi.
J'arrive à mettre des stops et à faire, vous savez, ce que disait Coluche, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Après, ce que a pu se dire et se dire encore à l'heure actuelle pour moi, voilà, ça ne m'atteint plus du tout. Ça ne me fait plus mal du tout.
Alors, resituez-moi le contexte un petit peu pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Ils n'ont pas entendu nos dernières conversations.
Alors, la première fois, je suis intervenu parce que le bonheur me faisait peur.
Mmh.
Voilà. Et suite à vos conseils, voilà, il y a des charmantes personnes qui ont laissé leur numéro de téléphone. Et il y avait que deux personnes qui vont se reconnaître si elles en écoutent. Et ça, il y en a une que je sais qui écoute. Je les ai contactés et depuis que la première fois, on converse, on discute pendant une heure et demie, voilà, au téléphone, et elles m'ont fait comprendre beaucoup de choses, voilà. Et même si, bien sûr, que la solitude me fait peur, il est certain que où j'habite à l'heure actuelle et dans le peu de mètres carrés que j'ai, ouais, et je suis une personne à risque par rapport à la pandémie qui sévit dans le monde entier. Ensuite, j'ai rappelé pour dire que, qu'il y avait des gens bienveillants autour de moi, malgré ce qu'on peut se dire autour de moi, les gens malveillants, ceux-là, je ne les entends plus. Même s'ils parlent, même si, oui, ils me parlent, il y en a certains qui m'adressent la parole, mais j'entends plus qu'ils peuvent me dire de mal.
Vous avez coupé le son négatif.
Ah, tout à fait.
Chouette, c'est bien ça.
Et les petites graines, parce que comme je suis horticulteur de profession, les petites graines que moi j'ai semées depuis la première intervention avec vous, elles commencent à germer.
Formidable.
Donc, dans mon cœur.
Dans mon cœur. Oui, j'ai bien compris.
Alors peut-être que l'amour viendra. Non, je le souhaite. Donc mesdames, il y a un petit horticulteur ici dans le centre de la France qui est prêt à faire pousser ce petit bonheur dans le cœur d'une femme.
Que c'est joliment dit.
Après, vous savez, Sabine, j'ai un certain âge. Et maintenant, avec le recul, je pense que oui, je ne suis pas si âgé que ça, mais avec le recul, je peux prendre un peu de recul, oui. Avec mon âge, je peux prendre du recul sur ce qui s'est passé dans ma vie et maintenant. Oui. Ouais. Vous voyez, aujourd'hui, il faisait un temps superbe chez moi, mais j'étais me promener en vélo. Je suis parti en vélo, je suis revenu à bicyclette, voilà. Donc, et oui, je me suis mis à nettoyer mes plantes, à rempoter, à repiquer et tout, voilà. Ouais, je commence à retrouver du bonheur.
Ça, c'est formidable. Et c'est vraiment important ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas empêcher les autres de dire des choses négatives qui nous font du mal.
Non.
Mais on peut reculer suffisamment pour ne plus les entendre.
Mais voilà, c'est ça. C'est ça que j'arrive à faire, c'est que j'arrive à plus entendre ces gens. J'arrive plus à les entendre. Parce que malgré ce qu'on peut penser de moi, de négatif, de méchant, et ce qu'on peut dire de méchant sur moi, ces gens-là, pour moi, ils sont plus... J'entends plus ces voix. Je les entends plus. Même s'ils le disent, je les entends plus. Et je ne sais pas comment l'exprimer, mais je ne l'entends plus, ça.
Et puis au bout d'un moment, quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus prise, ils vont lâcher l'affaire, ils vont laisser tomber.
Alors ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur tête. Je ne suis pas dans leur tête. Ça fait un certain nombre d'années, il y a des gens qui me tapent sur la tête, qui essayent de m'enfoncer. Jusqu'à présent, ils n'ont pas arrivé. Ah, ils ont failli y arriver deux fois. Ouais. Honnêtement et sincèrement, ils ont failli y arriver deux fois.
À quel moment?
Ouais. En 2013, en 2014, où j'avais un peu marre. Et là, j'ai commis des gestes sur ma personne que j'ai failli pas réparer. Voilà.
C'est-à-dire, vous avez fait quoi?
Des grosses tentatives de suicide. Voilà.
Ah.
Et comme malheureusement, je suis malade dépendant alcoolique. Voilà.
Mmh.
Je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi.
Bien sûr, on ne choisit pas ça.
Maintenant, moi, je ne suis pas dans le déni, comme certaines personnes que j'ai eues croisées dans ma vie. Et encore à l'heure actuelle, je connais des gens qui sont dans le déni de leur maladie. Moi, je n'ai jamais été dans le déni de ma maladie. Si j'avais été dans le déni, dites-vous bien, Sabine, que je ne vous en parlerai pas ce soir.
Bien sûr, bien sûr.
Maintenant, il est certain que j'ai eu des grosses périodes d'abstinence. Oui. Malgré ce que je pouvais vivre dans ma vie, auparavant, avec cette femme violente, Oui, j'étais dans l'abstinence. Malgré ça, j'aurais pu sombrer dans l'alcool. Mais non, j'étais plus fort que ça. Mmh. Alors, contrairement à des personnes qui disent « on m'a fait boire », c'est facile de le dire. Et moi, quand je personne... Et jamais personne m'a mis un verre dans la main. Jamais personne.
Mmh.
Si j'ai pas envie de prendre ce verre d'alcool, je sais pour moi que c'est nocif et que c'est pas bon, je ne le prendrai pas. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais je ne le prendrai pas. Et j'ai jamais été dans le déni de ma maladie. Malgré ce que je pouvais supporter. Vous savez, Sabine, j'ai voulu jouer les grands garçons il y a quelques années en arrière, au moment où je me suis rendu compte que j'étais dépendant à cette drogue dure, malheureusement en vente libre. J'ai voulu jouer les grands garçons. Je me suis dit, allez, je vais m'en sortir tout seul.
Mmh.
Oui, mais malheureusement, je suis atteint un point où j'ai fait un délirium très mince. Voilà. Et je me suis retrouvé dans la ville où je résidais à l'époque, à 6h du matin, par terre. Et je le souhaite à personne de vivre un délirium très mince.
Bien
je
sûr,
le souhaite
bien
à
bien
personne. Sûr. Parce que ça, et ça je l'ai appris bien des années, bien après, qu'un délirium très mince, on peut en mourir. On peut en mourir. Donc après... J'ai réussi à surmonter ça, malgré les épreuves que j'ai pu encaisser et vivre dans ma vie. Vous savez, je me suis donné un surnom rigolo. Je me suis surnommé Ikea.
Pourquoi?
Voilà. Parce que je suis en pièces détachées, voilà.
Est-ce que vous avez le mode d'emploi pour tout remettre dans le bon sens?
Ah non, non.
Non, toujours
c'est
pas.
C'est comme les Suédois, il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà. Après, voilà.
C'est à l'instant. J'arrête.
Oui. Pardon?
C'est à l'instant.
Ah oui, oui, tout à fait, oui. Mm. Ouais, je suis toujours fonctionné comme ça. Malgré qu'on puisse m'appuyer la tête sous l'eau, j'ai réussi toujours à relever la tête. Voilà. Mais il y a quelque chose qui me ronge un peu depuis 2013. En deux mots, je suis revenu en 2011, donc j'ai quitté le sud-ouest pour revenir ici dans ma région d'origine, voilà. Et malheureusement, une personne proche de moi ne me supportant pas, voilà, où j'étais, donc pour éviter des problèmes à ma mère, j'ai dit je vais partir. Ma mère, elle n'a pas supporté ça, l'âge qu'elle avait à l'époque, et donc je suis parti. J'ai vécu à peu près 3 mois à la rue, en plein hiver, voilà. Et et là, j'ai décidé de me soigner. Et malgré tout ça, j'ai réussi à surmonter pas mal d'épreuves physiques, psychologiques dans ma vie, et je suis encore debout. Et à mon avis, ça en embête certains. Et en 2013, j'ai fait une grosse tentative de suicide. Voilà. Suite à pas mal d'événements dans ma vie. Voilà. Et voilà. Mais heureusement, il y avait une personne à côté de moi. 2014, bon, je remets la même chose. Il y avait quelqu'un de présent à côté de moi. Là, il est certain qu'il y a des moments, ça me traverse la tête. Voilà, je voudrais en arriver à quelque chose. Donc, 2012, je fais une première cure. Donc, 2013, je prends un petit appartement. Bon, d'abord, j'ai connu une personne dans un milieu hospitalier et qui m'a dit « Ouais, mais viens chez moi. » Donc, voilà. Et cette personne m'a malheureusement violé. Et j'étais adulte. Et j'ai vécu ça très, très mal. Donc, je le dis à ma famille, qui ont pris de suite ma défense. Mmh. Voilà. Donc, ensuite, je me retrouve hospitalisé à nouveau pour une cure. Et là, grâce à un infirmier génial, un infirmier excellent, et mon collègue de chambre, pendant pratiquement 3 mois, m'ont fait prendre conscience qu'il fallait que je porte plainte. Je porte plainte, et depuis 2013, je n'ai pas relancé l'affaire. Donc, j'ai eu des thérapies, tout ça. Et donc, en 2014, voilà, mes frères et sœurs m'ont bien fait comprendre que ça m'était bien fait pour moi et qu'à l'ailleurs, je l'avais cherché. Il m'a fait beaucoup, beaucoup de mal.
Mais ça fait, ça fait partie de toutes ces voix qui vous font du mal, ça.
Ah, mais elle me faisait du mal, tu vois. Elle me faisait du mal. Ça, c'est voilà, elle me font plus de mal. Voilà, elle me font plus de mal. Et il y a peu de temps, suite à le livre de Camille Kouchner, ce qui est très bien, ce qu'elle a fait, c'est très bien, parce qu'elle a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Mmh. Entre parenthèses, je voudrais dire par rapport à ça, je trouve pas normal qu'on aille accuser des gens comme ça à tort. Voilà. Il y a des gens qui sont un peu célèbres. Moi, je suis pas célèbre. Moi, je sais très bien que si je lance l'affaire, j'ai des preuves. J'ai pas été déposé plainte contre une personne comme ça au hasard. Maintenant, il y a eu des preuves, je suis passé, vu par des médecins légistes, hein, voilà. Donc après, que des gens accusent comme ça des personnes à tort, ça me fait un peu, je sais pas. Je pense que, voilà. Maintenant, ceci dit, c'est mon avis et je ne demande pas qu'on le partage. Et donc, depuis 2013, j'ai été porté plainte contre cette personne avec des preuves, évidemment. Vous savez, porter plainte contre quelqu'un sans preuve, ça peut aller très loin, c'est de la diffamation. Et en tant qu'ancien militaire, je sais de quoi je parle. Mmh. Voilà. Donc, depuis 2013, j'ai pas renoncé à l'affaire. Je sais que c'est au commissariat central de la ville plus importante à côté de chez moi. Et un sentiment de honte chez moi. Un sentiment de honte. Parce que vu ce qu'on m'avait dit auparavant, un sentiment de honte. Et j'en ai parlé à ma thérapeute il y a peu de temps.
Oui.
Qui m'a laissé entendre, sous-entendre, qu'à la rigueur, mes frères et sœurs avaient raison. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu perdu. Parce qu'il me semble...
Comment votre thérapeute peut vous dire une chose pareille?
Ah, ça... Oh, vous savez...
C'est un jugement, ça.
J'y étais il n'y a pas longtemps. Elle m'a fait une leçon de morale magistrale par rapport à d'autres faits. Voilà. Donc, à la rigueur, ce genre de thérapeute, j'en ai pas besoin dans ma vie.
Ben, c'est... Oui, je pense que c'est pas ce qu'il vous faut, c'est sûr.
Parce qu'il met plutôt des idées noires dans la tête.
Et où en êtes-vous maintenant avec l'alcool?
Ah, alors, avec l'alcool, j'ai eu une période d'abstinence il y a très peu de temps. Et là, je commence à me réalcooliser, vu les événements qu'on m'a dit dernièrement. Voilà. Et la chose merveilleuse, c'est que j'ai revu mon fils il y a 15 jours. Je vais le revoir prochainement.
Oui, on avait évoqué ça à l'époque. La rencontre était prévue. Hein, oui.
Ah, bah ça, c'est super bien rencontré. Super bien passé.
Bon.
Voilà. Un peu ému, lui comme moi.
Ah, j'imagine.
Il tient de son père et il est très, très émotif, mon fils. Voilà. Après, est-ce que c'est une qualité ou un défaut, je ne sais pas.
Ça dépend ce qu'on en fait, cette émotion.
Jusqu'à présent, je ne savais pas trop encore en faire. Maintenant, je vais savoir la gérer, cette émotivité.
Bon, c'est une bonne chose.
Maintenant, voilà. Et comme je sais que vous avez des très bonnes analyses, Sabine, je ne sais pas si pour moi, parce que là, c'est parole contre parole. C'est comme pour toutes les histoires qu'on est en train de sortir devant le monde, devant la France entière, les gens qu'on accuse comme ça. À la rigueur, moi, j'ai une preuve. Mais vous savez, en 2014, j'ai eu une confrontation avec cette charmante personne au commissariat central de la ville la plus importante où je réside.
Jean-Michel, pardonnez-moi, on va garder le suspense. Je vais devoir vous arrêter le temps des informations.
Bien sûr.
Vous ne bougez pas et vous nous racontez la suite juste après, d'accord ?
Bien sûr.
Merci.
Pas de
problème, Sabine. À tout de suite.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
D'avoir choisi la libre antenne d'Europe 1 pour accompagner votre soirée. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h du matin en direct, ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à partager. Continuez à nous appeler bien sûr si vous avez envie de me parler de vous, ce soir d'un problème qui vous préoccupe ou de quelque chose de votre vie à me raconter, vous faites le 3921, Estelle et Théo attendent vos appels au standard. Et puis je vous rappelle que pour intervenir par SMS, réagir, apporter un soutien, une idée, demander à être mis en relation avec quelqu'un, vous faites le 73921, suivi du mot nuit et de votre message.
22h30, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et c'est Jean-Michel que je reprends. Rebonsoir Jean-Michel.
Rebonsoir Sabine.
Alors que me disiez-vous juste avant les infos ?
Ben, je disais que j'ai eu une confrontation en 2014 avec cette personne, au commissariat donc de la ville la plus importante. J'ai été porté plainte, donc, comme je vous disais, grâce à un infirmier qui était extrêmement important dans ma vie, parce qu'il m'avait bien fait comprendre que j'avais un boulet que je traînais depuis des années par rapport à plein de choses. Et donc, le collègue de chambre avec qui j'ai partagé ma chambre pratiquement 3 mois, donc c'était quelqu'un de très très bien aussi, voilà. Hein. Donc, faut se dire aussi que les alcooliques font pas forcément des personnes mauvaises et méchantes.
Bien sûr qu'il y en a,
mais dès l'instant qu'on est dans la vérité et pas dans le déni, je pense qu'on peut échanger très bien et qu'on peut se passer de cette, je vais dire un gros mot, de cette putain de saloperie en vente libre.
Voilà.
Je suis désolé du gros mot, voilà. Parce que moi, je considère ça comme une drogue. Voilà. Donc, j'ai une confrontation au commissariat central. Et donc, ayant à côté de moi, malgré qu'il était à 1m50 de moi, et sachant que j'avais la vérité, donc l'OPJ, il savait très bien que je le disais vrai, donc c'est parole contre parole à ce moment-là. Et quand je suis sorti du commissariat central, je vous jure que j'ai voulu aller me balancer dans la Loire. Ouais, à ce moment-là, j'ai voulu me balancer dans la Loire parce que cette personne, sachant ce qu'il avait fait sur moi, a essayé de prouver le contraire à l'OPJ. Et moi, bien sûr, que je me suis senti très mal. Et encore maintenant. Parce que je ne sais pas si, en sachant que ma plainte, elle est au tribunal, elle est à la police nationale, et voire au parquet, parce que là, ça relève des pénales. C'est des pénales que ça relève. Donc, après tout ce qu'on a pu me dire, on était d'accord avec moi, c'était grave. Après, on a pu me dire que c'était bien fait pour moi, voire un peu, parce que m'a bien fait comprendre ma thérapeute. Donc, je suis en train de me poser la question aussi. Est-ce que pour moi, ça ne va pas me permettre d'avancer un peu plus dans ma vie? Donc, de faire un grand trait là-dessus, malgré le résultat qu'il pourrait y avoir au jugement, malgré ça.
Oui, vous vous demandez si ça vaut le coup, si c'est un combat qu'il vous faut mener ou pas, si je comprends bien, c'est ça.
Tout à fait. Ouais.
Oui, je comprends. Quelquefois, effectivement, c'est plus douloureux de mener le combat que de lâcher l'affaire, quoi.
Parce que là, je viens de surmonter des montagnes. Je viens de surmonter quelques montagnes. Et il y en a encore une qui se dresse devant moi. Encore une qui se dresse devant une montagne. Et là, je suis en bas de la montagne. J'essaye de la gravir, mais malheureusement, arrivé à mi-montagne, je retombe.
Oui. J'imagine que face à cet agresseur qui cherche à nier la vérité, vous vous sentez humilié de nouveau, quoi.
Bah, vous savez, moi, ça m'arrive de temps en temps, plus pour l'instant, mais ça m'arrivait de prendre un moyen de transport pour aller dans la ville, pas loin de chez moi, et de le croiser. Et je vous jure qu'à ce moment-là, j'avais un sentiment de meurtre.
Oui, bien sûr.
C'est des choses que j'ai jamais ressenties dans ma vie. Mmh. Bien sûr qu'avec la violence que j'ai encaissée dans ma vie, supportée dans ma vie, par rapport à des femmes violentes, j'aurais pu être violent. J'aurais pu être une personne violente. J'aurais pu être une personne détraquée. C'est-à-dire m'en prendre à des gamins ou des gamines. Mmh. Ça m'était arrivé gamin. C'est un truc que j'avais complètement occulté. Il a fallu qu'une de mes sœurs m'en parle à l'occasion d'une réunion de famille pour que ça me revienne à la figure. Non. Le tabou, vous savez, dans une famille, ça fait beaucoup de mal. Des choses comme ça.
Mais en tout cas, vous n'avez pas sombré dans un déséquilibre de ce côté-là.
Ben, après, vous savez, je ne crois pas en Dieu, mais Dieu merci, non.
Dieu merci, non. Bon.
Vous savez, moi j'ai un fils, il va avoir 33 ans cette année. S'il était à côté de moi, il me l'a dit encore il y a peu de temps, quand je l'ai vu. J'ai jamais mis une claque sur les fesses de mon fils. Jamais. Jamais. Même, ça m'est arrivé d'être alcoolisé devant lui. Mais jamais, je lui dis un mot méchant envers mon fils. Jamais j'ai levé la main sur mon fils.
Mmh.
Alors que je sais très bien qu'il y a des enfants qui ont subi la violence, qui ont subi l'alcoolisme de leurs parents, qui ont sombré de ce côté-là. Moi, non.
Mais vous avez des valeurs et vous vous y tenez, ça c'est formidable.
Bah, je ne sais pas si j'ai des valeurs.
Moi, si, bien sûr que si.
Moi, j'ai une éducation. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. J'ai des principes dans ma vie. Oui, j'ai des principes.
Oui, mais les principes sont des valeurs.
J'essaye de tenir ces principes-là. J'essaye de tenir ces principes et ces valeurs, j'essaye. Et je les cultive tous les jours.
Dites-moi Jean-Michel, pour terminer, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vous conseille de mener ce combat ou de ne pas le mener, c'est ça?
Ouais.
Sincèrement, ouais. En vous écoutant, je pense qu'il vaut mieux lâcher l'affaire. Ça vous fera probablement plus de bien que de risquer de vous retrouver encore humilié ou encore dans des situations difficiles et douloureuses pour vous.
Et vous ne pensez pas qu'en lâchant l'affaire, ça ne va pas me bouffer la tête encore?
C'est compliqué de vous dire ça. Je ne suis pas votre thérapeute, donc je ne vous connais pas assez bien pour ça. Mais j'ai l'impression que c'est très compliqué d'affronter ça pour vous. Et qu'en plus, vous n'êtes pas soutenu du tout par votre thérapeute.
Ah non.
Donc ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup. C'est un combat qui risque de vous mettre à terre. Et ça ne serait pas juste. Ça ne serait pas juste.
Non. J'essaie de me débarrasser de ça. Essayez. J'ai réussi à surmonter d'autres épreuves, donc pourquoi pas celle-là?
Vous savez que c'est cette force en vous, on en a déjà parlé. Celle qui vous tient debout à l'intérieur.
Ah bah bien sûr, quoi. Mmh. s'il n'y avait pas une force en moi, ça ferait longtemps que je serais six pieds sous terre. Avec tout ce que j'ai passé, je pense. Et puis, j'ai une raison de me battre, c'est mon fils.
C'est ce que j'allais vous dire, il y a un nouveau repère là dans votre vie. Il y a une petite lumière qui s'est allumée sur ce chemin.
Oui, une lumière qui s'allumait depuis après Noël. Hein.
Et peut-être que justement, votre énergie, vous feriez mieux de la diriger vers ces choses positives que d'aller encore ressasser des choses très douloureuses dans un contexte qui... où vous n'êtes pas soutenu, où ça va être compliqué pour vous.
D'accord. Et une petite chose, le petit horticulteur là, qui se trouve ici dans le centre de la France, il est prêt à donner du bonheur et semer des petites graines d'amour. Voilà, la vie.
Le message est entendu, Jean-Michel, et on transmettra si des femmes vous appellent.
Ouais. Et
est-ce que vous voulez bien juste redonner votre âge ?
54 ans.
D'accord.
Oh, je sais, c'est un vieux, c'est vieux. Non.
Faites très attention à ce que vous allez dire, attention à vous.
Non, je suis très très jeune dans ma tête.
Voilà, on est bien d'accord. C'est pas vieux du tout, 54 ans.
Ah non. Et physiquement non plus.
Je vous promets, Jean-Michel, qu'on vous transmettra si on a des jeunes femmes ou des femmes qui...
Et je voulais vous remercier encore beaucoup, Sabine, pour vos mots et votre pertinence. Voilà.
C'est gentil.
Ça fait... petite lumière qui brille, là.
C'est gentil. Au fond
du tunnel, j'arrive à le voir.
Prenez bien soin de vous, Jean-Michel.
Grâce à vous, il y a quelques auditrices avec qui j'ai l'occasion de discuter depuis quelques temps. Voilà.
Je vous embrasse.
Merci.
À bientôt, Jean-Michel. Au revoir.
Au revoir, Sabine. Au revoir.